Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, la situation est toujours critique dans l'Yonne, en vigilance rouge crue. Nous serons en direct de Chablis, l'une des communes les plus touchées, dans quelques instants. Opération Place Net XXL, le pilonnage des points de deal se poursuit en France. Ce matin, une opération anti-drogue d'ampleur a été lancée à Strasbourg. Europe 1 y était. L'actualité, c'est aussi la découverte d'un tunnel artisanal par hasard près de la prison de la Santé. Un projet d'évasion a-t-il été déjoué? Tous les détails dans quelques instants. Le saviez-vous, après le Nutri-Score pour nos aliments, la France va lancer un éco-store qui affiche l'impact environnemental de nos vêtements. Si, si, tous les détails dans cette Europe 1 13h. Enfin, un chef-d'œuvre de Monet exposé chez Christie's avant d'être vendu aux enchères à New York. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
Un temps instable au nord avec du vent et des averses orageuses. Beau temps et douceur plus au sud. Le département de l'Yonne est toujours en vigilance rouge pour crue majeure sur l'Armançon. Des températures en hausse qui vont de 13 à 17 degrés sur la moitié nord. 17 à 22 au sud. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec la menace d'attentat en France et cette tentative de passage à l'acte déjouée ce week-end de Pâques. Ce sont les mots de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez-la.
L'information que j'ai à ce moment-là, c'est effectivement une tentative de passage à l'acte qui a été déjouée. Pour le reste, je n'ai à ce moment précis pas les détails, mais je pense que le ministère de l'Intérieur pourra vous en donner plus, vous en dire plus, quand cela sera bien évidemment possible.
Il y a des centaines de passages à l'acte évités chaque jour qui n'ont rien à voir avec le terrorisme.
Merci bien de le souligner. Merci de le souligner, effectivement.
Non, mais c'est juste que je n'ai pas très bien compris pourquoi le mettre en lien avec le week-end Pascal, la menace Vigipirate.
Il y en a eu un précisément ce week-end.
C'est du terrorisme ou c'est pas du terrorisme?
Je ne qualifie pas, c'est pas le gouvernement qui qualifie.
Alors, grande confusion à l'issue de ce Conseil des ministres avec cette déclaration qui manque de précision et de clarté. Jacques Seret, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, écoutez, Prisca Thévenot a commencé ce compte-rendu de Conseil des ministres, comme elle le fait chaque mercredi, cette fois en expliquant qu'un passage à l'acte avait été évité le week-end dernier. Elle mettait en relation cela avec le plan Vigipirate renforcé. Elle se félicitait de l'efficacité de ce plan pour expliquer ce projet déjoué. Et quelques minutes plus tard, après l'avoir relancé à la suite du fait que le ministère de l'Intérieur ne confirmait pas cette information, eh bien Prisca Thévenot n'a pas été en mesure de confirmer ce qu'elle avait prononcé quelques minutes avant, une heure avant. Et finalement, son équipe, à la sortie de ce compte-rendu du Conseil des ministres, indique désormais qu'aucun attentat n'a été déjoué ce week-end et que lors de ce point presse, la porte-parole du gouvernement faisait référence à une arrestation d'un individu début mars, donc il y a un mois, qui voulait s'en prendre à des lieux de culte. Donc il n'y a eu aucun attentat déjoué ce week-end, comme pouvait l'annoncer la porte-parole du gouvernement au début de son compte-rendu de Conseil des ministres.
Merci beaucoup Jacques Seret pour toutes ces précisions. Et donc aucune tentative d'attentat n'a été déjouée ce week-end. C'est une erreur, une confusion de la part du porte-parole, de la porte-parole du gouvernement. Allez, 13h04, direction Strasbourg maintenant avec cette nouvelle opération Place Net lancée ce matin. Alors depuis le lancement en grande pompe à Marseille le 19 mars dernier, c'est la 8e agglomération ciblée par ce dispositif anti-drogue d'ampleur. 150 opérations vont être menées dans les différents quartiers de cette ville de Strasbourg. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante Europe 1 dans le Grand Est et vous avez suivi l'une d'entre elles dans le quartier du Port du Rhin.
Oui, on est à quelques centaines de mètres à peine de la frontière avec l'Allemagne. L'opération a commencé à 6h ce matin, menée par Dominique Rodriguez, directeur interministériel de la police nationale adjoint. Avec ses équipes et leurs chiens, ils fouillent les halls d'immeubles.
On fait les caches habituelles où on peut retrouver des produits qui sont souvent dans les espaces techniques, tableaux électriques, les ascenseurs, etc. Les priorités, c'est les caches, les recels de vol, tout ce qui est armes également.
La police en profite aussi pour contrôler des véhicules, évacuer des voitures épaves. Anne-Véronique habite ici depuis 17 ans et elle confirme que les trafiquants de drogue gâchent la bonne ambiance du quartier.
Il y a des immeubles où les squatters mettent sous coupe rangée les gens. On utilise les scooters pour faire les livraisons au mépris des gens qui sont là. J'ai fait une remarque à un jeune et puis j'ai fini par prendre son numéro de plaque de scooter. Il est revenu vers moi, il m'a dit « si la police vient chez moi, je sais où vous habitez, je viendrai sonner ». Et ça, on sait que c'est des menaces, quoi.
Elle espère que cette opération Place Net XXL servira à quelque chose. 6 interpellations ont eu lieu depuis ce matin, mais pas encore de saisie de drogue.
Mélina Fachin à Strasbourg en direct pour Europe 1. 13h06, je vous parle maintenant d'une découverte qui interpelle. Un projet d'évasion a-t-il été déjoué à Paris? La question se pose après la découverte d'un tunnel à proximité de la prison de la Santé, découvert par hasard hier. Alors Jean-Baptiste Marty, que sait-on sur cette découverte surprenante?
Eh bien oui Céline, hier peu avant midi, un technicien d'Enedis chargé de raccorder des fils électriques descend dans un puits du 14e arrondissement de Paris, un puits situé au 93 rue de la Santé. Pour vous situer, nous sommes à seulement 450 mètres du centre pénitentiaire et cette découverte donc, un tunnel en cours de formation, une dizaine de mètres déjà creusés et cela en direction de la prison. À proximité, des sacs remplis de gravats ainsi qu'un lit sont retrouvés. L'accès a immédiatement été condamné par les services de la mairie de Paris. Alors la piste envisagée est pour le moment le projet d'évasion. Une surprenante découverte, d'autant plus que la Santé est une des prisons les plus protégées de France, notamment pour son quartier VIP. Une enquête est actuellement confiée au commissariat du 14e arrondissement.
Les précisions de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et on l'a appris ce matin, l'ancien président du Front National Jean-Marie Le Pen, âgé de 95 ans, a été placé sous régime de protection juridique. C'est une disposition civile qui s'apparente à une tutelle et qui a été activée sur demande de la famille après une expertise médicale constatant l'inaptitude de Jean-Marie Le Pen. On parle maintenant de la disparition du petit Émile. Alors hier, le procureur d'Aix-en-Provence a annoncé la découverte de ses vêtements, de traces de morsures et de petites fractures sur le crâne de l'enfant, mais aussi que toutes les hypothèses restent à l'étude. Alors les habitants du Haut-Vernay se posent toujours des questions sur les circonstances de la mort du petit garçon. Écoutez Robert, l'un des habitants du village.
Il n'y a eu aucune réponse, donc encore une fois, une frustration. On reste toujours avec les mêmes hypothèses et les mêmes possibilités. Hélas, on va encore attendre des semaines, je pense, avant d'arriver à une solution. Mais bon, il faut être patient. C'est pesant sur les relations avec les gens. On sent qu'il y a quand même certaines lourdeurs. Donc il n'y a plus la même insouciance qu'il peut y avoir avant, effectivement, bon, pour les enfants et puis pour tout le monde. Donc c'est pesant. Voilà, ils ont trouvé là maintenant des vêtements. Peut-être qu'ils vont trouver aussi le reste du corps. Ça pourrait amener aussi des éléments tangibles. Donc bon, quelque part, ils sont là. Tant mieux, je préfère les voir là. Parce que quand on ne voit plus personne, on se dit qu'est-ce qui se passe. On sait que ça se passe dans les bureaux aussi. Mais bon, voilà, là, le fait qu'ils soient sur le terrain, c'est plutôt rassurant. Et on pense que ça risque d'amener encore de nouveaux éléments plus tard. C'est bien.
Les interrogations de Robert, habitant du village, au micro de Frédéric Michel qui suit cette affaire depuis le début pour Europe 1 et qu'on retrouvera dès 13h20 pour faire un point sur l'enquête avec mes chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas et Paul Melun. Alors pourquoi cette affaire nous touche-t-elle autant? Eh bien venez réagir.
Au 01 80 20 39 21 le numéro est non surtaxé. Il est 13h09 sur Europe 1, la suite du journal avec vous Céline Géraud.
Et on parle maintenant de l'alerte rouge crue toujours maintenue dans le département de l'Yonne. Le pic des inondations a été atteint à Tonnerre et à Chablis, les deux communes du département les plus touchées par les crues. Inès Zegloul, vous êtes justement à Chablis pour Europe 1. Alors après une nuit très compliquée où la rivière, le Serein est monté jusqu'à 2,30 m, eh bien la décrue a commencé.
Effectivement Céline, la surface s'est affaissée de 30 cm déjà. Alors certains habitants ont encore les pieds dans l'eau, quelques rues sont encore immergées, mais pour la plupart c'est l'heure de nettoyer, d'éponger. C'est le cas de Mathieu par exemple, patron d'un restaurant, un ancien moulin qui enjambe le cours d'eau et qui s'est retrouvé, vous l'imaginez bien, totalement inondé. Il est venu constater les dégâts.
Il va falloir qu'on teste les machines, les meubles qui ont trempé dans l'eau et la perte des frigos aussi parce que bon bah il n'y a pas d'électricité donc tout ce qui est dedans ça va être perdu. Il y a la perte d'exploitation là qui va venir sur les jours à venir là. Tant qu'on puisse réouvrir. Ça fait deux fois en trois semaines, donc on aimerait bien que ça remonte pas. C'est suffisant pour cette année. Ouais.
Et pour son voisin Eric, là aussi, la nuit a été courte.
Très courte. Toutes les heures, il fallait éponger un petit peu quand même dans la cuisine. Là, ça baisse bien, ouais. Mais tout doucement quand même.
Ça va être une décrue lente?
Je pense, ouais. suite qu'il pleut. Donc voilà, ça risque de remonter. Hein. Ouais. Ça peut revenir, quoi. Ça dépend ce qui tombe en amont. Hein.
Et cette pluie qui va s'intensifier, a priori demain, c'est la plus grande peur des habitants ici à Chablis. Il faudra donc plusieurs jours avant un retour à la normale.
Inès Zeglou, La Chablis pour Europe 1. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, après le Nutri-Score, une nouvelle étiquette pour mesurer l'impact environnemental de nos vêtements. Le cerveau dévoilé comme jamais grâce à l'IRM le plus puissant du monde. Et puis un chef-d'œuvre de Monet exposé en France avant de filer à New York. Europe 1 vous informe jusqu'à 14h. Alors à tout de suite.
Il est 13h11, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.
Europe 1, 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h12, vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Alors, est-ce que vous connaissez le Nutri-Score? Oui, bien sûr, hein, ça concerne les produits alimentaires. Eh bien, voici son équivalent pour le prêt-à-porter. Le gouvernement a présenté ce matin l'éco-balise. L'objectif, eh bien, permettre aux vendeurs comme aux clients d'y voir plus clair sur l'impact environnemental des vêtements. Baptiste Morin, il va donc y avoir une étiquette de plus.
Oui, sur cette étiquette, un score qui prendra en compte les émissions de gaz à effet de serre lors de la production du vêtement, mais aussi la consommation d'eau ou encore la durabilité. Plus l'impact environnemental est élevé, plus ce score est élevé. Un exemple concret, pour un t-shirt en synthétique fabriqué en Asie, le score sera de 1252 points. Il baissera à moins de 900 points pour un t-shirt en coton fabriqué au Pakistan et moins de 400 points pour un t-shirt en coton bio fabriqué en France. Une méthode à revoir, s'emporte Christophe Girardier, président de Glimpact, une entreprise qui accompagne les marques de vêtements dans leur décarbonation.
On va vous dire, le coton bio, c'est formidable. Ben non, pas nécessairement. Vous pouvez prendre 4 exploitations de coton. Elles sont toutes bio, mais vous allez vous rendre compte que l'une utilise 3 fois plus d'eau à l'hectare que l'autre.
À l'image de Christophe Girardier, de nombreux acteurs du secteur sont réticents. Ils estiment que cette éco-balise est en contradiction avec le label défini en début d'année par l'Union européenne. Autre bémol, seules les marques volontaires afficheront cette éco-balise, vraisemblablement au début de l'année prochaine. Il n'y aura donc pas d'obligation.
Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1. Je vous parle maintenant d'une innovation spectaculaire, une première mondiale dévoilée dans les laboratoires du Commissariat à l'énergie atomique en Essonne, nom de code ISULT. Yasmina Katou, c'est tout simplement l'IRM le plus puissant du monde, une machine XXL capable de percer les mystères du cerveau humain.
Oui, c'est une résolution d'image inégalée. Imaginez passer d'une télé des années 60 à un téléviseur 4K. Des neurones et des zones imperceptibles sur l'IRM classique sont dévoilées. Des images si nettes qu'elles permettront de comprendre les mécanismes de certaines maladies neurodégénératives pour mieux les traiter, explique Nicolas Boulan. Il est directeur de recherche au CEA.
Pour la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a des atrophies au niveau de l'hippocampe qui peuvent se produire. Et donc là, on décuple nos moyens d'observer à une échelle plus fine pour essayer de comprendre cela de manière plus poussée.
Grâce à l'IRM, les chercheurs pourraient aussi suivre le chemin qu'empruntent certains médicaments dans le cerveau pour mieux comprendre leur fonctionnement, comme le lithium utilisé pour les troubles bipolaires. L'IRM ISULT est pour l'instant strictement réservé à la recherche fondamentale. D'abord, à cause de son coût, 170 millions d'euros, et aussi par sa taille. L'appareil fait 5 mètres de long et de diamètre et pèse 132 tonnes contre 13 tonnes et 2 mètres de long pour un IRM classique. Il faudra donc attendre plusieurs années avant de le voir dans les hôpitaux.
Spectaculaire, Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
Il est 13h15 sur Europe 1 et pour vous, amateur d'art, un moulin de Monet à voir cette semaine à Paris avant qu'il ne soit vendu aux enchères à New York, Céline.
Alors que l'on fête les 150 ans de l'impressionnisme, un chef-d'œuvre de Monet mis en vente par la maison Christie's, c'est un musée américain qui se sépare de l'œuvre, donc le moulin de Limetz sera vendu à New York en mai prochain, une toile estimée à 25 millions de dollars. Marie Jiquel.
On l'ignore, mais chaque année, dans les catalogues de vente aux enchères, se glissent des tableaux de Monet.
Chaque saison, à Londres ou à New York, on propose plusieurs Monet.
Antoine Le Bouteiller, directeur du département impressionnisme moderne chez Christie's.
Monet, c'est la superstar du marché impressionniste et moderne. C'est l'artiste impressionniste qui dépasse les 100 millions de dollars. Ce sont des cotes en permanente évolution vers le haut.
Couleurs pastel, peinture par petites touches et jeu avec la lumière. Pas de doute avec cette vue du moulin de Limetz à côté de Giverny, fief de Monet.
Genet, nous sommes en plein dans l'impressionnisme.
On est en 1888, on est juste avant les grandes séries que Monet a eu l'habitude de peindre à partir des années 90, que ce soit les grandes séries sur les cathédrales de Rouen ou sur les meules. Là, justement, on est sur un sujet qui n'est pas unique, mais dont on a connaissance que de deux tableaux.
Avant sa vente à New York, le tableau s'offre un dernier voyage.
Soit il est en dédouanement, soit il est encore dans l'avion.
Et devrait arriver à Paris aujourd'hui pour souffler les bougies de l'impressionnisme.
Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1. Allez, comme chaque jour, on fait un point sur les marchés. Avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com, une petite hausse aujourd'hui.
Voilà, une hausse timide pour le CAC 40 qui a lâché près de 1%. Hier, il reprend 0,2%. 8142 points. Parmi les bonnes nouvelles, l'inflation a ralenti plus que prévu au mois de mars dans la zone euro. Une inflation à 2,4%, ça redonne un peu le moral au marché. À côté valeur, ça monte pour les banques, Société Générale et BNP Paribas gagnent plus de 1%. En revanche, on a Stellantis qui perd plus de 2%. Troisième séance dans le rouge pour le constructeur automobile. Le pétrole monte encore, le Brent est au-dessus des 89$ le baril et l'euro est stable à 1,0773. Les indices en Europe sont partagés, Londres perd 0,4%, Francfort gagne 0,2%, plus 0,2% aussi à Paris pour le CAC 40, on est à 8142 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. Et on fait un point sur la météo maintenant avec vous Géraldine Hamon.
Oui.
Averse et coup de vent au nord, beau temps au sud.
Avec le soleil en effet qui domine de l'Aquitaine vers le golfe du Lion sur les Pyrénées et la région PACA, éclaircies et averses. C'est ce qui vous attend ailleurs, des averses qui seront accompagnées d'un vent d'ouest soufflant jusqu'à 70 km/h. Attention aussi au coup de tonnerre qui pourra éventuellement accompagner ces giboulées. Le ciel se couvre de nouveau sur le nord-ouest cet après-midi avec une nouvelle dégradation qui arrive par la Bretagne qui apporte de la pluie en Normandie et sur les Pays de la Loire en fin de journée. Il neige sur les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres d'altitude et les températures, elles, sont en hausse et très douces. Il fera 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 14 au Havre, 15 à Brest, Lille et Strasbourg, 16 à Caen, 17 à Rennes, Nantes et Paris, 18 à Nice et Lyon, 19 à Marseille, 20 à Bastia, 21 à Biarritz, jusqu'à 22 degrés à Perpignan. Demain, ce sera perturbé sur la moitié nord, mais on attend une nette amélioration en fin de semaine avec plus de soleil et des températures printanières, Céline.
Merci Géraldine Hamon, c'était la météo et nous, on continue à décrypter l'actualité dans quelques instants avec mes chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas et Paul Melun. Le petit Émile, l'affaire, pourquoi nous touche-t-elle autant cette affaire? On en parle avec vous. Le projet de loi agricole qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, va-t-il éteindre la colère des agriculteurs dans les campagnes? Et puis Rachida Dati, favorite pour succéder à Nadine Hidalgo à la mairie de Paris. Qu'en pensez-vous? Eh bien, venez réagir 01 80 20 39 21.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud. Bon début d'après-midi sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h22, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous réagissez jusqu'à 14h avec Céline Géraud au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité aujourd'hui, Céline, avec de vos deux chroniqueurs du jour. Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche et l'écrivain Paul Melun.
Bienvenue à bord.
Merci.
Merci d'être là. Alors évidemment, comme chaque jour, hein, Charlotte, Paul, on va décrypter l'actualité et on va évidemment revenir sur la disparition du petit Émile, hein, 9 mois après, dénouement tragique. La semaine dernière, la découverte d'ossements humains. Hier, les précisions du procureur d'Aix-en-Provence sur la découverte, hein, de vêtements et de détails sur les fractures et des morsures antémortem constatées sur le crâne de l'enfant. Mais le mystère demeure entier sur le sort qu'a connu l'enfant et les circonstances de sa mort. Frédéric Michel, qui suit cette affaire depuis le début pour Europe 1 est avec nous en direct. Bonjour Frédéric.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Merci d'être là, Europe 1 13h. Vous suivez évidemment cette enquête, les recherches. Vous êtes non loin du village, du hameau, du Haut-Vernay. Quel est le programme? Où en est-on aujourd'hui?
Les recherches se poursuivent puisque, vous l'avez dit, on a retrouvé seulement qu'une partie du corps. On a retrouvé des vêtements également. Mais il faut absolument maintenant pour les enquêteurs qu'ils mettent la main sur le reste du corps d'Émile. On a retrouvé le crâne, des dents. On sait qu'il y a une maxillaire qui manque. C'est actuellement l'objet des recherches des enquêteurs, des gendarmes qui sont toujours sur place actuellement.
Et le mystère reste entier, notamment pour les habitants du village qui se pose toujours autant de questions, hein, Frédéric Michel.
Oui, on n'a pas eu réellement de réponse. Hier, en fait, toutes les hypothèses restent d'actualité. L'homicide involontaire, le meurtre ou la chute, les enquêteurs et les magistrats ne privilégient aucune thèse. Le procureur reconnaît que ce n'est satisfaisant pour personne, évidemment pas pour la famille du petit Émile. Il a d'ailleurs commencé avec une pensée pour les parents et la famille d'Émile. Et puis, vous l'avez dit, ici, au Vernet, j'ai rencontré quelques habitants. Beaucoup de questions se posent. Et puis, il y a toujours cette inquiétude. Alors oui, certains pensent à l'accident, mais d'autres ont toujours peur que la piste criminelle soit la bonne.
Mmh. Ils pensent que ça va prendre du temps.
Les habitants pensent que ça va prendre du temps, mais la justice l'a dit, ça va prendre du temps. Des analyses sont en cours sur le crâne. Vous avez dit qu'on a déjà relevé des petites traces de fractures, des fissures, des morsures post-mortem. Ça veut dire concrètement que là, il n'y a pas eu d'intervention humaine, mais il va falloir encore pousser ces analyses. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais qu'il est important de retrouver le reste du corps. Excusez-moi du terme, je l'ai déjà employé, mais c'est comme un puzzle, c'est-à-dire qu'à un moment, pour bien comprendre une situation, il faut vraiment être en possession de tous les éléments.
Merci beaucoup Frédéric Michel, qu'on retrouvera évidemment tout au long de la journée dans nos différentes éditions sur Europe 1. De retour dans le studio en direct avec Paul Melun, avec Charlotte Dornelas. Au regard des moyens qui sont déployés, le moindre détail, la place que cela prend dans le débat, dans les médias, pourquoi cette affaire, selon vous, nous touche autant ?
Elle nous touche beaucoup. Moi, personnellement, et je pense que la plupart des Français sont dans mon cas, on trouve cette affaire épouvantable. On a spontanément, comme ça, une profonde compassion, tristesse à l'égard de la famille du petit Émile.
Et parce puis, que c'est un enfant.
Parce que c'est un enfant, donc passé la stupéfaction, vous avez une forme de « ça pourrait arriver à un de mes proches, à un enfant, à un neveu, à une nièce ». Enfin, si vous voulez, quand vous avez ces photos qui sont sorties dans la presse, du petit Émile, etc., ça vous prend au cœur. Et je crois que cette affaire, aussi sinistre, aussi tragique, aussi sordide soit-elle, elle parle à chacun d'entre nous. Mmh. C'est la raison pour laquelle, depuis que ces ossements ont été trouvés, il y a une vague d'empathie de la part de nos compatriotes. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre l'empathie et le voyeurisme. Mmh. C'est-à-dire que nous exprimions tous une empathie, que nous soyons tristes, que nous voulions savoir les informations élémentaires, c'est une chose. Mais après, je pense qu'il est inutile de sombrer dans un voyeurisme macabre qui consisterait à feuilletonner,
vous
etc.
Vous trouvez qu'on est là-dedans actuellement?
Moi, je pense que certains sont là-dedans. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde, mais il y a une responsabilité collective, autant de la part des téléspectateurs, des auditeurs, des personnes qui, comme nous tous, lisons la presse, que de la part des journalistes, à se dire... jusqu'où va-t-on et comment peut-on garantir la dignité pour la famille et voilà, quelles sont les limites. Moi, je suis pas déontologue du journalisme, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je me dis il y a des limites à cela. Et quand on se place un peu, c'est infiniment difficile, mais quand on essaie en tout cas de se placer dans ce que doit ressentir la famille aujourd'hui, ils veulent probablement l'apaisement,
le
recueillement, la prière, bien sûr.
Charlotte Dornelas,
il demande en effet le recueillement, la prière, le silence et la nécessité de celui-là, et ils adressent un message plus particulier aux journalistes dans ce communiqué de leur avocat, en demandant aux journalistes de pas les contacter ni de venir chez eux. Donc moi, je suis d'accord sur la vague d'émotion qui a touché le pays. Indiscutable et ça fait 9 mois qu'elle dure. D'ailleurs, les parents ont compris la parole très rarement, mais qui l'ont prise quand même 3 fois, et la dernière fois par le biais de ce communiqué, ont systématiquement remercié à la fois les enquêteurs, les juges d'instruction, mais également tous les Français qui leur ont soit envoyé des mots, soit qui sont venus les aider sur place, notamment au début, pendant les recherches. Donc ils sont vraiment reconnaissants de cette vague d'émotion et de compassion qui a touché le pays entier, avec une critique qu'ils avaient formulée dans leur première interview et qui est, on peut l'avoir formulée, on va dire, par la demande qu'ils font aux journalistes à l'encontre de certains journalistes qui objectivement se sont extrêmement mal comportés depuis le début. Mmh. Et quelles sont les limites ? Les limites, par exemple, quand on cherche un enfant pendant 9 mois, c'est de pas aller chercher, discuter des convictions politiques, des options religieuses, de la foi de ses parents, en émettant un doute sur quand même, et le père qui est ceci, et le quand on est encore en train de chercher un enfant, ou quand on vient de découvrir qu'il est mort. Ça, je pense que c'est une limite, quelle que soit, encore une fois, la foi ou les options politiques des uns ou des autres. Et ça a été clairement dépassé dans ce cas-là. Et je pense que, bon, voilà, là, il faut s'attarder. Les parents nous ont donné leur manière de le vivre, hein, qui est celle de l'espérance, en raison de leur foi notamment, et celle de la douleur, évidemment, des parents qui viennent de perdre leur petit garçon. Et je pense qu'au-delà de ça, évidemment, qu'on cherche à savoir, mais le procureur nous dit, on ne peut pas en savoir plus à l'heure qu'il est. Les parents nous disent de nous recueillir et de prier. Je pense que, voilà, c'est une bonne ligne de conduite.
Allez, 13h29, on reste ensemble jusqu'à 14h dans quelques instants avec Paul Melun et Charlotte Donnelas. On va décrypter, tiens, ce débat fiscal qui divise la majorité, notamment autour de l'assurance chômage. À tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. À tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h32 sur Europe 1 et avec vous, Céline Giraud.
Aucun attentat n'a été déjoué le week-end de Pâques. L'entourage de Prisca Thévenot précise les propos de la porte-parole du gouvernement qui a manqué de précision à l'issue du Conseil des ministres. Prisca Thévenot a fait état d'une tentative de passage à l'acte déjouée. Elle faisait référence à l'arrestation d'un individu début mars qui voulait s'en prendre à ses lieux de culte. Le département de l'Yonne maintenu en vigilance rouge au cru pour le troisième jour. Le pic des inondations a été atteint à Tonnerre et à Chablis, mais l'eau devrait encore monter plus en aval, alerte orange dans l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or. Un projet de loi pour l'agriculture présenté ce matin en Conseil des ministres. Un texte étoffé depuis les manifestations des agriculteurs avec notamment des mesures pour accélérer la construction de réserves d'eau et alléger les sanctions encourues en cas d'atteinte à la nature. Un puissant séisme a fait au moins 8 morts et plus de 800 blessés à Taïwan. Le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans. Le risque de tsunami a été écarté. Enfin, qui affrontera Lyon en finale de la Coupe de France? Eh bien, la réponse ce soir, puisque le PSG affronte Rennes à 21h10.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud, décryptage de l'actualité avec vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste au journal du dimanche, Charlotte Darnellas.
Et on va parler maintenant de ce débat fiscal qui divise la majorité. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs d'Europe 1, on est ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue à bord. Je dis ça parce que depuis l'annonce du plan d'économie de 10 milliards d'euros et du déficit public abyssal, eh bien, le gouvernement veut revoir les modalités de l'assurance chômage. Ce matin, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a présenté les axes de la réforme.
Le Premier ministre a proposé une réforme de l'assurance chômage qui reposera sur trois indicateurs éventuels. Le premier, c'est la durée d'indemnité. Le deuxième, c'est le temps de cotisation. Et le troisième, c'est l'évolution de l'indemnité elle-même. Sur ce troisième point, les organisations syndicales ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir émettre des conclusions, ce qui sera fait le 8 avril prochain, donc d'ici quelques jours.
Charlotte Dornelas, voilà, on est au début de cette réforme, c'est pas la première, de l'assurance chômage, cette réduction effectivement de la durée d'indemnisation qui fait beaucoup parler.
Qui fait beaucoup parler, puis j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité contre elle pour des raisons différentes, mais on a vu plus sur le côté droit, on va dire, en tout cas sur le terrain économique, parce que tout ça est un peu mouvant, on va dire. On a vu des gens s'interroger sur un traitement égal de situation parfaitement incomparable, notamment sur la durée de travail que vous avez fait, sur le profil. On sait que souvent sont évoqués ces profils qui vont travailler juste le temps de récupérer l'indemnité, etc. Bon, déjà, combien ce profil, enfin, quelle est la réalité, on va dire, de ces profils-là? Parce qu'il y en a, notamment les restaurateurs l'évoquent souvent, le problème du rapport au travail de certains. Oui. Qui profitent dans une certaine mesure de cette assurance chômage. Donc, il y a sans doute des cas où, en effet, il faut durcir les règles. Est-ce qu'il faut les durcir de la même manière pour quelqu'un qui a bossé pendant 40 ans et qui se retrouve dans une situation compliquée, surtout avec, un, la question du coût du travail, deux, la question de l'emploi des personnes, plus on dit senior, mais ça commence tôt, le senior aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent d'un côté, et de l'autre côté, il y a le tabou même de toucher à l'assurance chômage qui fait réagir jusque dans la majorité. Or, on le sait, et je dis ça parce qu'il y a une question politique qui se pose très directement, c'est l'Assemblée nationale. On l'a vu sur les retraites, on voit exactement les mêmes choses se rejouer avec des personnes qui sont très... Jusqu'à Yael Braun-Pivet elle-même. Donc, oui. C'est pas juste Sacha Houlier, parce que ça aurait pu être anticipé, on va dire, mais Yael Braun-Pivet elle-même qui s'interroge. Donc, on voit encore une fois que c'est, comment dire, une démarche qui est faite. En plus, on nous dit, bon, c'est pas pour faire des économies, parce que c'était prévu avant. C'est vrai que c'était évoqué précédemment, mais là, il se trouve que c'est dans un contexte où il faut faire des économies, et enfin, il faut faire des économies de toute urgence, et le fait que le gouvernement ne communique que sur ce point extrêmement précis et niché par rapport à l'ampleur des économies, c'est-à-dire un changement d'échelle et de comportement dans l'argent que nous dépensons. Alors certes, dans le fonctionnement de l'État, mais également sur les dépenses sociales. Moi, j'ai pas de problème à interroger cette question-là. On pourrait, je le dis en tant que Française, tout simplement, on ne va pas pouvoir, on a bien compris, on va pas pouvoir continuer avec des dépenses sociales comme ça. Donc il faut y réfléchir. J'ai pas de problème avec le fait d'y réfléchir, de poser les questions sur la table. Simplement prendre juste cette question-là et de manière objectivement injuste, ça me semble ambitieux.
Paul Melun, d'autant que Gabriel Attal le précise bien et dit c'est pas pour faire des économies à cette réforme, mais c'est pour atteindre le plein emploi.
Alors je doute un peu de cette déclaration, en tout cas de sa véracité. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire effectivement, pourquoi est-ce que le gouvernement s'en prend à l'assurance chômage comme si c'était, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de sa politique économique face à l'endettement de la France. En réalité, c'est très révélateur. C'est-à-dire que il faut faire des économies. Bon, la France a une situation d'endettement très importante, 113% du PIB, une dette qui a explosé, un déficit qui se creuse d'année en année. Donc, il faut prendre des décisions économiques pour réduire ce niveau d'endettement. Face à ça, il y a plusieurs options sur la table. On n'en creuse qu'une seule. Et ces différentes options, elles en disent long, si vous voulez, sur la façon dont on apprécie la politique économique. Où vous vous en prenez, effectivement, aux chômeurs en disant c'est eux qui sont les responsables de nos maux MAUX et donc c'est sur eux qu'il faut aller reprendre l'argent parce qu'ils profitent derrière, il y a un discours quand même un peu stigmatisant je trouve à l'égard des demandeurs d'emploi ou alors il y a d'autres options et c'est Yael Braun-Pivet elle-même qui en a parlé, un certain nombre de taxations sur les super profits qui devraient peut-être pas être tabous. Le gouvernement a mis en place cette fameuse flat tax, il a supprimé l'ISF pour les valeurs mobilières par exemple. Là moi je pense qu'on pourrait revenir là-dessus et taxer davantage la finance. Il y a des raisonnements sur la taxe Tobin, par exemple. Il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Typiquement, ce n'est pas ça que le gouvernement choisit. Le gouvernement choisit de faire porter, disons, le chapeau de l'endettement et de faire porter la réduction des dépenses sur les chômeurs. C'est un choix éminemment politique. Et effectivement, c'est un choix politique qui penche plutôt à droite au plan économique et pas au plan social. Encore que le clivage gauche-droite là-dessus, on pourrait parler du gaullisme social aussi, qui n'est pas du tout cette logique-là non plus. Donc on rentre vraiment dans la droite libérale mondialiste qui, pour résoudre un certain nombre de problématiques économiques, en passe toujours par les mêmes recettes, à savoir taper sur les plus pauvres. Moi, je pense que c'est pas une bonne option et qu'il y en a d'autres. La production, la taxe des très riches, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et peut-être
aussi,
le fonctionnement de l'État et le train de vie de l'État.
Alors, vous parliez justement de la problématique des chômeurs de plus de 50 ans. Bruno nous appelle. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Alors, vous avez 58 ans et vous êtes au chômage.
Exactement. Et je suis ni politicien ni économiste. J'ai pas la compétence de vos chroniqueurs, mais j'écoute avec passion ce débat. J'entends Monsieur Attal qui dit qu'il veut retourner au plein emploi, mais l'emploi des seniors c'est très compliqué. Ça fait quelques mois que je suis au chômage. J'ai 58 ans. J'ai toujours travaillé depuis mon service militaire sans aucune interruption, même pas un congé maladie ici, peut-être pendant le Covid comme beaucoup de gens. Mais voilà, donc je me retrouve dans cette situation qui n'est pas forcément la mienne. Et donc, c'est très difficile de retrouver du travail. Et quand on est déjà passé de 36 mois à 27 mois d'indemnisation pour les personnes de plus de 55 ans, donc moi, j'en ai 58, avec donc une dégressivité parce que même si dans une autre intervention, j'avais entendu parler d'une dame qui travaillait à Pôle emploi, enfin, on dit France Travail maintenant, et elle disait qu'il y avait une dégressivité. Il n'y avait pas de dégressivité au-delà de 55 ans, mais quand on a eu des salaires qui étaient plus importants que le seuil de la sécurité sociale, il y a quand même une dégressivité au bout de 6 mois. Donc, on se retrouve dans une situation qui est compliquée.
Vous trouvez ça inéquitable?
C'est inéquitable, c'est inadapté, je dirais. En fait, je pense qu'il faudrait quelque chose de plus mesuré, de plus adapté à chaque situation. J'écoutais Pascal Pro qui disait ce matin que on appelle ça assurance chômage. Ce serait pas mal d'avoir une assurance à point. En fait, on a cotisé un certain nombre de temps et on récupère un petit peu ce qu'on a cotisé, parce que quand on a cotisé pendant plus de 30 ans, ce qui est mon cas, 35 ans, on devrait pouvoir récupérer un petit peu plus que ça, et surtout pas avoir de dégressivité, parce que mon salaire avant, il n'était pas dégressif. Mmh. Et il n'y a pas de raison. Mmh. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est très compliqué de retrouver du travail après 55 ans.
Ouais, d'autant que vous habitez, je le rappelle, en Dordogne. Merci beaucoup, Bruno, pour votre témoignage. C'est concret, c'est précis. Charlotte, cette idée, pourquoi pas, de points qu'on collecterait au fil de sa carrière.
Contrairement à ce que pensait ce monsieur, il l'a dit beaucoup plus précisément ce que j'avais dans la tête tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas traiter de la même manière des situations objectivement inégales. Quand vous cotisez toute votre vie et que vous avez un système qui repose notamment sur la solidarité par le biais de la cotisation, il y a un moment où, en effet, quand le mot assurance est utilisé, il faut voir comment fonctionne basiquement une assurance. Et quand ce monsieur a cotisé pendant des années qu'il a systématiquement travaillé, il arrive et on lui dit on va vous traiter exactement de la même manière qu'un gamin de 23 ans qui a bossé pendant 6 mois et j'ai pas de problème à ce que certains soient aidés à ce moment-là de leur vie parce qu'il y a des situations différentes aussi, mais ça ne peut pas être regardé par la loi de la même manière. C'est en effet un problème inéquitable, en fait. Ça a l'air juste parce que tout le monde est traité de la même manière, mais traiter de la même manière des situations qui ne sont pas les mêmes, c'est injuste en réalité. C'est en tout cas inéquitable. Oui, je reprends votre mot. C'est en tout cas inéquitable, très clairement.
Paul, sur cette idée?
Oui, enfin, je pense que Bruno a parfaitement raison dans ce qu'il nous expliquait. C'est-à-dire que c'est du bon sens. Moi, je pense que cette histoire de points, effectivement, ça peut être intéressant. Par ailleurs, il soulève un point qui est très important, qui est de dire le retour à l'emploi. Quand vous avez 58 ans et que vous habitez en Dordogne, je connais bien ce département qui est splendide par ailleurs, c'est pas évident. Voilà, on aime tous le Périgord. Et si vous voulez, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai le cas autour de moi. Je sais qu'on ne retrouve pas un emploi. Les entreprises ne font pas aussi assez d'efforts là-dessus sur l'emploi des seniors. Alors, il y a quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement en ce sens, mais je pense que ça va pas assez loin. Et si vous voulez, entre l'augmentation de l'âge de départ en retraite et cette histoire de dégressivité où effectivement c'est difficile quand vous avez 58 ans parce que vous avez encore un certain nombre d'années à passer avant d'arriver à votre retraite. Et je pense qu'on va créer, si vous voulez, dans cet interstice entre 55-65 ans, une nouvelle catégorie de pauvres. Mmh. Et je crois qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays et qu'on se grandirait à penser cette question, à la penser au plan social, à la penser au plan du retour à l'emploi et à ce que les entreprises prennent aussi leur part à cela.
Allez, il y a un autre texte qui est très attendu et qui est présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, c'est ce projet de loi d'orientation agricole à retravailler. Alors, est-ce que ça suffira pour éteindre la colère des agriculteurs? Eh bien, on va se poser la question dans quelques instants avec vous et avec nos auditeurs. 01 80 20 39 21, on vous attend.
Europe 1, il est 13h43.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Paul Melun et Charlotte Dornelas.
Et on va parler maintenant de ce projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. C'est l'intitulé exact. Projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Nouveau texte qui sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 13 mai. Est-ce que ça va suffire, selon vous, à éteindre la colère de nos agriculteurs, Paul Melun?
Il y a une chose sur laquelle, en tout cas, le projet de loi et les déclarations d'intention de Marc Fesneau est intéressant, c'est qu'enfin, on prend en compte, en considération le débat public, le fait que sur les 400 000 exploitations agricoles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont disparaître dans les années à venir et qu'il y a une question de renouvellement des générations. Ouais. Ça, sur le constat, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, sur le mode d'action, malheureusement, là, c'est le compte n'y est pas du tout. C'est-à-dire que c'est la même chose que notre débat de tout à l'heure avec Charlotte et Bruno sur la question de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on prend le sujet à chaque fois par le petit bout de la lorgnette. Là, sur la question du renouvellement des générations, il y aurait des choses à faire de l'ordre d'une grande politique agricole et qui dépasse le cadre de ce qui a été fixé dans ce projet de loi. Mmh. Là, il est question de faire un bachelor agricole, par exemple, en 3 ans. Bon, c'est pas mal de réfléchir avec l'articulation avec France Travail un peu partout dans les territoires ruraux. Ok, mais ça suffira pas. Pourquoi est-ce que les jeunes agriculteurs ne veulent pas reprendre l'exploitation de leur père? Généralement, c'est parce que c'est très coûteux, ça rapporte peu, c'est extrêmement difficile comme métier. C'est un métier très pénible, qu'il y a des problèmes effectivement de concurrence déloyale avec un certain nombre de produits. Et là, vous re-rentrez dans la spirale de tous les sujets qui ont fait la crise des agriculteurs. Et ces sujets-là, ils n'ont pas été résolus. Donc, tant que vous n'allez pas résoudre ces sujets-là, vous aurez beau faire un bachelor d'agriculture en 3 ans, les jeunes qui vont vouloir reprendre l'exploitation familiale ou alors qui ne sont pas du milieu agricole et qui vont vouloir travailler dans le milieu agricole, Bah, ils vont y réfléchir à deux fois, parce qu'ils vont se dire travailler toute la journée pour vivre en dessous du seuil de pauvreté, ça va pas. Donc c'est la question du revenu des agriculteurs, c'est la question de la concurrence mondiale, c'est la question aussi de la qualité de vie dans les territoires ruraux, l'accès aux services publics, l'accès à des écoles de qualité, ne pas fermer les écoles et les hôpitaux. Et là, tout de suite, vous rentrez sur un raisonnement qui est beaucoup plus large sur toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour valoriser nos campagnes, pour continuer à ce que l'État investisse dans les campagnes, peut-être arrêter, je sais pas, avec certains projets comme l'éolien un peu partout qu'on met où les gens n'en peuvent plus, peut-être réfléchir à la façon dont on peut traiter les questions d'urbanisme, etc., etc. La vie à la campagne, c'est toutes sortes de sujets qui vont même bien au-delà, parfois, du simple sujet agricole. Donc moi, je pense qu'il faudrait une grande politique globale à la fois pour les campagnes, à la fois pour les agriculteurs. Et là, de ce que déclare Marc Fesneau, j'en en vois pas l'ombre, vous voyez.
Vous êtes inquiète, Charles
Dornelas? Non, mais parce que ce qui transparaît dans la déclaration de Paul, c'est que c'est d'abord une question de souveraineté. Elle est préalable, la question de savoir que peut faire un ministre dans les circonstances. Alors, vous savez, par le biais de la hiérarchie des normes, que beaucoup de choses, et on l'avait vu pendant la crise des agriculteurs, se jouent, sont jouées et vont se rejouer à Bruxelles. Et quand on dit à un ministre de l'Agriculture qu'il faut prévoir une loi ordinaire en France, il le fait dans le cadre qui lui est imparti, qui est extrêmement limité par rapport au sujet dont on parle. Oui, contraignant dans une certaine mesure, c'est surtout tout le reste qui est contraignant pour écrire la loi. Et il y a par exemple, alors je ne reviens pas sur la question de la formation, il y a une ambition qui est bonne, c'est indiscutable, mais par exemple il y a une grosse communication qui est faite parce que Gabriel Attal l'avait dit à l'époque sur le fait de faire de l'agriculture un intérêt général majeur, nous avait-on dit, au même titre que l'écologie. Bah, c'est pas complètement vrai, dans la mesure où la défense de l'environnement est constitutionnelle en France, donc devant un tribunal administratif. Or, la question de la bureaucratie revenait tout le temps dans le discours des agriculteurs. La défense de l'environnement continuera à primer dans cette hiérarchie des normes. Vous voyez, sur plein de petits sujets comme ça, il y a des intentions. Je pense qu'ils ont entendu, comme nous tous, et en plus ça a longtemps duré, et les agriculteurs ne se sont pas laissés raconter des histoires, comme on a pu le voir par le passé certaines fois. Donc il y a des choses qui ont été entendues, Dieu merci. Maintenant, pour les changer, c'est un peu plus compliqué que simplement une loi du ministre de l'Agriculture, me semble-t-il.
Alors, l'actualité politique, encore, c'est aussi ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro qui place Rachida Dati largement en tête du premier tour des municipales de Paris, largement devant Anne Hidalgo. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie à trois bandes ou à deux bandes menée par Dati, ministre de la Culture, pour aller vers la mairie de Paris, fonctionne?
Oh, moi, je fais confiance à Rachida Dati, qui pour moi est une grande stratège, bien meilleure que moi d'ailleurs. Et donc, ce billard à plusieurs bandes dont vous parlez là, elle en est spécialiste. Maintenant, la question, c'est de se dire aussi, l'érosion de la cote de popularité d'Anne Hidalgo à Paris est extraordinaire. Elle fond comme neige au soleil. Il y avait déjà eu toutes les polémiques sur l'augmentation de la taxe foncière, il y a la question de l'insécurité à Paris, de l'insalubrité, de la saleté qui s'accumule dans beaucoup de quartiers.
Enfin, les petites maladresses, si voyage à Tahiti,
le Tahiti Gate, comme on l'appelle désormais.
Sa sortie sur Moscou récemment, sur les athlètes biélorusses et russes.
J'ai même du mal, en une seule intervention, vous voyez, à résumer tout ce qui fait défaut à Anne Hidalgo ces derniers mois. Donc, selon les derniers sondages, elle est en baisse. Je vois même que Yannick Jadot flirterait avec elle en termes d'intention de vote. Bon, c'est un peu tôt pour en parler. Toujours est-il que, moi, je pense que Rachida Dati a une carte à jouer, parce que je crois savoir qu'elle a plutôt bien géré son arrondissement, que c'est une femme qui a de l'expérience, que passer par un poste gouvernemental est plutôt une bonne stratégie pour séduire les Parisiens qui aiment bien
qui
avoir des personnalités d'envergure nationale. Elle est à l'aise dans le débat. Et en tout cas, c'est pas très difficile face au marasme de Anne Hidalgo d'essayer de dire, on va réfléchir au patrimoine de Paris, on va réfléchir à des grandes politiques culturelles autres que la politique culturelle un peu woke pour les bobos de l'Est parisien. Il y a quand même du travail à Paris, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que Rachida Dati, notamment en étant positionnée comme ministre de la Culture, choisit une voie qui pourrait la servir pour les élections municipales.
D'autant qu'elle arriverait après les Jeux Olympiques, qui sont un point de tension qui cristallise.
À ceci près qu'à Paris, elle peut pas non plus prendre frontalement ce milieu de la culture. Et on a vu depuis le début, elle est particulièrement discrète sur tous les sujets, notamment idéologiques, qui touchent le monde de la culture. Moi, j'ai un peu eu la même réflexion, c'est-à-dire que oui, elle est en tête dans les sondages, etc. Je pense que ça en dit plus long sur le bilan d'Anne Hidalgo pour l'instant, en tout cas, que sur la stratégie de Rachida Dati, de le fait de passer ou pas au gouvernement. Et Rachida Dati, par ailleurs, c'est un terrain qu'elle laboure quand même depuis de longues années à Paris, indépendamment de sa nomination, de son poste de ministre de la Culture depuis
depuis quelques semaines.
L'autre sujet dont je voulais vous parler, Paul Melun, Charlotte Dornelas, c'est cette opération PlaceNet. Hein. On a vu ce matin opération à Strasbourg. Hier, il y avait Nantes et Toulouse. 8 villes, 8 agglomérations ont déjà été ciblées hein, par cette opération XXL. Alors, on va évidemment parler du bilan, est-ce efficace, mais on a un retour terrain intéressant. C'est Isabelle qui nous écoute à Neuilly-sur-Seine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 Trésor. Alors, on parle beaucoup des grosses villes, de Marseille, de Lille, de Paris. Mais vous habitez à Neuilly-sur-Seine et quel est votre quotidien ?
Alors, notre quotidien, mais depuis des années, hein, je précise quand même, hein, c'est pas quelque chose de récent ou qui serait apparu il y a quelques mois. J'ai habité dans plusieurs quartiers de Neuilly et c'est malheureusement un sujet récurrent, même si on peut quand même... admettre que ça
c'est un quartier privilégié quand même, Neuilly-sur-Seine.
Alors, c'est une ville a priori privilégiée. Je dis bien a priori parce que les a priori ont la vie dure. Et pour être neuillienne et pour y vivre quotidiennement, et une partie de mes amis et de ma famille, on a bien vu depuis quelques années notre cadre de vie se dégrader de manière assez spectaculaire, je dirais, avec des trafics de drogue en bas de nos appartements, c'est-à-dire sous nos fenêtres, avec des dealers qui arrivent avec leurs voitures, qui se garent alors à la perpendiculaire du trottoir, qui ouvrent les portes, qui mettent la musique à fond, qui arrivent avec leurs chaises, ils s'installent. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans des banlieues dites chaudes ou voilà. À Neuilly-sur-Seine, je vous invite à venir voir. Aujourd'hui, c'est une réalité.
Merci, Isabelle.
Et je me suis même retrouvée en position de devoir... appeler la police, être à quatre pas de chez moi dans le noir, pour faire interpeller des dealers en bas de chez nous.
Merci pour ce témoignage effectivement assez effarant à Neuilly-sur-Seine, donc où aussi au bas de votre immeuble vous avez des points de deal. Charlotte Dornelas, ça pose la question justement des consommateurs. On relance le débat sur, on tape beaucoup sur les dealers, mais
Oui, non, mais ça, c'est sûr que l'offre est partout où la demande est présente. Et d'ailleurs, parfois, inversement, sur le terrain de la drogue, hein, parce que vous savez que les dealers font, et notamment les réseaux, font de la communication et de la publicité agressive pour faire découvrir. Donc, ils vous offrent un nouveau produit. Vous achetez une dose de cannabis ou de cocaïne et ils
avec
vous offrent un nouveau produit
vu, très
avec
attractif.
Du marketing pour essayer de vous vendre. Donc, l'offre est aussi très agressive hein, dans ce capitalisme absolument sauvage qu'est le trafic de drogue aujourd'hui. C'est vrai que ça touche partout. En effet, avoir une dame qui nous parle de Neuilly, on n'imagine pas un quart de seconde qu'elle peut vivre ça en bas de son immeuble, mais sur votre antenne, j'ai entendu des gens, une dame à Lyon, on se dit Lyon, alors oui, on imagine bien qu'il y a des quartiers plus difficiles à Lyon, mais enfin, elle racontait, il y a 4 points de deal autour de chez elle et elle peut pas sortir et elle se pose la question de comment elle s'habille le matin pour être sûre de passer le soir. Enfin, je veux dire, ces témoignages, ils nous viennent
les
de plus en plus
aussi,
de partout.
Voilà,
et on voit aussi des interpellations parfois, pas dans les places nettes, mais après de longues enquêtes. Des interpellations de laboratoires ou de nourrices, donc ces gens qui gardent la drogue dans des coins extrêmement reculés à la campagne. Donc on comprend bien que ça finit par gangréner l'intégralité du territoire français et que donc par conséquent tout le monde peut en souffrir. Donc en effet, la question PlaceNet, il y a deux choses. Il faudra voir le bilan réel de PlaceNet au-delà des interpellations.
On est à peu près 2000 interpellations aujourd'hui.
C'est ça, mais d'abord, qui est interpellé, pour quelles raisons? Parce qu'il y a des policiers qui disent on doit mettre toutes nos gardes à vue en opération PlaceNet. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des éléments matériels pour poursuivre ces personnes-là. Ensuite, quelle sera la réponse pénale pour ceux pour qui elle peut exister? Et par ailleurs, est-ce que ça n'aura pas déplacé le problème ailleurs? Ce qui peut être un vrai soulagement pour certains habitants, pas pour tous, parce que je note que Bruno Le Maire nous a rappelé que beaucoup d'habitants aussi, comme on les appelle, bénéficient de ce trafic de drogue. Donc c'est compliqué, en fait. C'est vraiment... Et plus on attendra... Et on a déjà beaucoup attendu sur ce terrain. Plus évidemment, ce sera compliqué parce que c'est la gangrène absolue.
Paul Melun.
De toute façon, effectivement, nous assistons depuis quelques années, quelques décennies presque, à une explosion du trafic de drogue en France. Donc, mécaniquement, la France n'ayant qu'un périmètre calé, ses frontières, tout cela se diffuse aux villes moyennes, oui bien sûr, se diffuse aux villes moyennes, parfois aux petites communes. Moi j'ai des témoignages surprenants dans des petites communes où il y a aussi aussi des problèmes de trafic de drogue. Et effectivement, maintenant, le témoignage était assez édifiant, y compris dans des villes ou dans des quartiers qu'on croirait extrêmement privilégiés.
Oui,
j'avais entendu des témoignages aussi dans le 16e, dans certains quartiers du 16e aussi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui existe maintenant partout. Le phénomène qui est nouveau ces dernières années, qui est de moins en moins nouveau, mais qui est extrêmement prégnant, c'est le fait que la drogue est quelque chose aussi de mondialisé, qui est la conséquence directe de la mondialisation, c'est-à-dire l'abaissement des frontières, la multiplication des flux de marchandises, de capitaux et d'êtres humains. Du moment que vous êtes dans cette logique-là, pour un certain nombre de produits manufacturés parfaitement légal, il est logique que les réseaux de drogue transitent aussi. Il y avait des témoignages, je lisais dans un journal récemment, sur des conteneurs dans un certain nombre de grands ports européens, où vous avez aussi un certain nombre de trafics de produits stupéfiants qui transitent par les ports, qui transitent à certains égards par les routes aussi, par toutes les frontières qu'on a notamment avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc, c'est quelque chose, les têtes de réseau qui parfois sont dans des pays étrangers, c'est quelque chose qui explose absolument partout et qui est un formidable carburant à la délinquance. Par conséquent, je ne vois pas comment est-ce que ces fameuses opérations place nette, qui déplacent le problème bien souvent plutôt que de régler le problème, pourraient résoudre ça de façon pérenne.
À suivre. Merci beaucoup, Paul Belin, Charlotte Dallaner. C'est déjà fini. On ne s'ennuie jamais avec vous.
Et on
vous laisse la main, Géraldine Hamon. Et on se retrouve demain pour
de
nouvelles aventures.
C'était Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 où chaque matin à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de vos journaux. C'est la revue de presse que vous pouvez retrouver dès maintenant en replay sur Europe 1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi. Après-midi récit avec Stéphane Bern et Historiquement Vôtre de 15h à 16h. C'est juste avant, c'est Christophe Ondelat que vous écoutez. On de la raconte dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.